Voilà, ce matin, on va poursuivre notre étude dans l'évangile de Jean des sept signes qui sont consignés dans cet évangile et qui sont là pour démontrer que Jésus est le Christ. Le but de Jean dans son évangile, c'est de nous donner des raisons solides de croire en Jésus comme étant le Christ. Et Jean s'appuie surtout sur les démonstrations de force, de puissance que Jésus a montrées au travers de sept signes. Et donc ce matin, on va voir dans Jean 9, le sixième signe, on en a déjà vu cinq. C'est la guérison de l'aveugle-né. Et on va commencer par lire les sept premiers versets. En fait, cette guérison occupe tout le chapitre 9. On va de temps en temps citer d'autres passages du chapitre, mais on va commencer par les versets 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. On verra dans le chapitre 9 que le miracle que Jésus fait ici va susciter une vive opposition. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que Jésus avance, qu'il fait des choses de plus en plus extraordinaires, l'opposition se lève aussi contre lui, de plus en plus. Au chapitre 6, quand Jésus a guéri le paralytique est allé vers les Juifs qu'il connaissait et il a témoigné que c'est Jésus qui l'a guéri. Et il a dit au chapitre 6 que les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. En fait, Jésus est conscient qu'il a un temps limité. Il le dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et on peut dire que plus la lumière que Jésus manifeste rayonne, eh bien plus les forces opposées à Jésus s'opposent, grandissent aussi contre lui. Jésus sait qu'il a peu de temps, et c'est pourquoi il va accélérer, on pourrait dire, la démonstration de puissance qui prouve qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Les deux derniers signes. On a vu les cinq premiers signes de Jésus, ils étaient déjà extraordinaires, la multiplication des pains, le fait que Jésus marche sur l'eau changée en vin pendant les noces de Cana. Mais les deux derniers signes sont encore plus puissants que les cinq précédents. Ici, Jésus guérit un aveugle de naissance, et l'aveugle dira aux Juifs qui contestent ce miracle, au verset 32 et 33, Jamais on n'a entendu dire encore que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Regardez ce que Jésus fait, il dit en quelque sorte. Regardez ce qu'il est capable de faire. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait pas faire cela. Ici, Jésus, dans le sixième signe, s'attaque à un problème qui est lié à la naissance d'un homme. Cet homme est aveugle-né. Dans le septième signe, qu'on verra la prochaine fois, Jésus s'attaque à quelque chose qui marque la fin de tous les êtres humains, c'est la mort. Il va ressusciter Lazare. C'est intéressant que Jésus s'attaque au sixième signe, à un problème qui vient à la naissance, et au septième, au plus grand des problèmes, celui qui termine notre vie, la mort. C'est comme si Jésus veut montrer dans ces deux derniers signes que tout ce que le mal, le péché a introduit dans l'humanité, tout ce qu'il a déréglé, peut être guéri par sa venue et sa puissance. Jésus peut guérir nos imperfections, les imperfections dont nous avons hérité, c'est ce qu'on va voir par notre naissance, mais il peut aussi nous délivrer du salaire du péché qui est la mort. Du début à la fin de notre vie, Jésus est capable de tout restaurer. Et c'est ce qu'il a voulu signifier par tous les signes qu'il a fait et qu'il a démontré. Alors on va s'arrêter ce matin à l'histoire de cet aveugle. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus voit un homme affligé d'un mal depuis sa naissance. On ne sait pas quel âge avait cet homme, mais la situation de cet homme n'a pas changé, n'a pas évolué d'un pouce depuis qu'il est né. Il est né aveugle, des années plus tard, il est toujours aveugle. Rien n'a changé dans son état. L'homme aveugle ne sait pas ce que signifie le jour, la lumière. Tout à l'heure, Florian, tu as parlé du fait qu'on peut regarder la grandeur de Dieu au travers de la création. Mais cet homme ne peut pas regarder. Quand on est, on dit « on voit le jour », n'est-ce pas ? Eh bien, cet homme est né, mais il n'a jamais vu le jour. Il est toujours dans la nuit, dans les ténèbres depuis son enfance. Je pense que cet homme, aveugle de naissance, il est en quelque sorte un représentant de l'humanité tout entière. Nous sommes tous, par nature, des aveugles de naissance, sur le plan moral et spirituel. Sans Jésus dans nos vies, sans son intervention, sans doute nous sommes nés, nous avons vu le jour, en quelque sorte, mais nous ne connaissons pas la lumière. Nous sommes aveugles. Nous grandissons, nous passons de l'état d'enfance à celui d'adulte, mais malgré les années, rien ne change. Rien ne change. Nous sommes enfermés dans les ténèbres. Il n'y a que une rencontre personnelle avec Jésus qui nous permet de voir, d'ouvrir les yeux et d'avoir accès à la lumière. Tout le chapitre 9 va en quelque sorte se concentrer sur cette dualité lumière-ténèbre. Jésus va beaucoup parler de cela. Et Jésus veut souligner une chose, c'est que souvent les hommes pensent voir, pensent connaître, mais tant qu'ils n'ont pas accès à la véritable lumière, eh bien en fait ils sont dans les ténèbres. Jean 9, 39, c'est la fin du chapitre, Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » En fait, Jésus montre qu'il n'y a que deux sortes de personnes dans l'humanité. Il y a celles qui voient parce que Jésus leur a ouvert les yeux, et puis il y a celles qui croient voir, qui croient savoir, mais qui en vérité sont aveugles et qui n'ont pas accès à la dimension de la connaissance de Dieu. Et la grande question qui nous est posée finalement, c'est est-ce que nous sommes des gens qui voient ou des gens qui ne voient pas? Est-ce que nous pensons connaître? Si nous pensons connaître quelque chose en dehors de Jésus, eh bien nous nous trompons, nous sommes toujours aveugles. La preuve que nous sommes aveugles est démontrée largement dans la parole de Dieu. Si on prend le simple exemple de Nicodème, Nicodème était un docteur d'Israël, il connaissait beaucoup de choses. Il connaissait même la Bible très bien, hein. Mais quand Jésus lui parle du début de la vie chrétienne, la nouvelle naissance, sans lequel on ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu, Nicodème dit qu'il ne comprend pas, il ne sait pas ce que ça signifie. Jésus lui dit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. Si Jésus n'ouvre pas les yeux du cœur, les yeux intérieurs de notre âme, eh bien nous sommes incapables de voir, de comprendre les choses d'en haut. Jésus croise donc le chemin de cet homme aveugle de naissance. Et il est bien conscient que cet homme est une occasion pour lui d'enseigner sur ce qu'est la lumière. Et qu'en dehors de lui, l'homme ne peut pas voir, l'homme ne peut pas connaître les réalités spirituelles. Les disciples de Jésus, voyant cet homme, lui posent la question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Qu'est-ce qui fait que cet homme est aveugle? Si les disciples posent cette question, elle n'est pas sortie comme ça de leur imagination. La question qu'ils posent nous parle de la conviction courante qui circulait parmi les Juifs. C'était une explication que les rabbins donnaient par rapport au handicap qui frappait un homme depuis sa naissance. Les rabbins pensaient que si quelqu'un est affligé à un mal depuis sa naissance, alors certainement ce mal est dû à une faute commise soit par cet homme, soit par ses parents ou ses grands-parents. Et pour ce faire, on peut dire accréditer cette conviction, les rabbins s'appuyaient aussi sur quelque chose que la Bible dit. Dans Exode 34, vous connaissez certainement ce passage, au verset 6 et 7, quand Dieu se présente à Moïse, il décline son identité et il dit « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte, le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. S'appuyant sur cette idée, sur cette vérité qui est ici exprimée, eh bien, les Juifs avaient érigé cette parole en principe universel. Si quelqu'un était atteint d'un handicap physique à la naissance, alors c'était certainement le signe d'une malédiction due au péché. Soit un péché commis par la personne, soit un péché commis par les parents ou les grands-parents. Bien sûr, se pose la question ici, est-ce qu'un enfant qui est dans le sein de sa mère peut pécher? Hein, parce que si c'est de sa faute, ben, ça veut dire que déjà, avant même qu'il soit né, il est péché. Jésus ne va pas forcément contredire cette parole, mais il va montrer que ce n'est pas du tout le cas pour chaque situation. Dieu peut faire que quelqu'un naisse avec une difficulté, une maladie, un handicap, sans que le péché en soit la cause. Et il serait faux de toujours lier un problème dans la vie d'une personne à un péché. C'est ce que Jésus veut souligner. Dieu peut avoir d'autres raisons bien plus glorieuses, bien plus élevées, pour faire en sorte que un mal qui est là puisse ensuite servir à un bien et manifester, comme il le dit, la gloire de Dieu. Alors je crois que c'est important pour nous qui sommes chrétiens aussi d'être prudents dans les jugements que nous pouvons avoir par rapport aux difficultés que quelqu'un peut connaître dans sa vie. Ce n'est pas parce que les choses vont mal, qu'elles ne tournent pas comme elles devraient, que immédiatement nous devons penser que le péché en est la cause, le péché de la personne, ou de ses parents, ou de ses grands-parents. Oui, ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des enfants qui naissent avec des carences et des tares, on pourrait dire, à cause du péché de leurs parents. Je pense à ceux qui boivent, à l'alcoolisme, à la drogue, qui engendrent des souffrances et des malheurs dans la vie de la génération qui vient ensuite. Mais vouloir forcément lier la souffrance d'une personne au péché des parents est une erreur, quelque chose dont on doit se garder. Et donc Jésus ici corrige la vision et la compréhension que les disciples ont par rapport à cette souffrance. Jésus montre que Dieu peut utiliser une difficulté, un handicap, une maladie, une souffrance pour d'autres desseins, d'autres buts bien plus élevés. C'est une occasion, dit Jésus, de manifester la gloire de Dieu, de révéler qui il est au monde, la faiblesse, la souffrance. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Dans l'histoire dans la Genèse, il y a une histoire qui souligne à quel point Dieu est capable d'utiliser quelque chose de mal pour le transformer en bien. C'est l'histoire de Joseph, vous connaissez. Joseph n'a vécu que des déboires au cours de sa vie, en tout cas à partir de l'âge de 17 ans. Il a été vendu par ses frères, il a été emprisonné jusqu'à l'âge de 30 ans, 13 ans de captivité. Et Joseph aurait pu dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Est-ce qu'il y a un péché dans ma vie qui fait que je suis comme ça? Que je dois passer par ce chemin? Et lorsque Dieu va l'élever et le placer comme premier ministre de l'Égypte, lorsqu'il va l'utiliser pour sauver les frères, ceux qui l'avaient vendu, dans Genèse 50, verset 20, quand il rencontre ses frères, il leur dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce que vous avez pensé en mal, Dieu l'a pris et a pensé en faire un bien pour vous sauver. » C'est ça la capacité et la gloire de Dieu. La capacité et la gloire de Dieu, c'est celle de pouvoir utiliser quelque chose de mauvais pour le transformer et en faire un bien. Et Dieu le montre, Dieu l'a montré par Jésus-Christ aussi, au travers de sa mort. Qu'est-ce qu'il y a de pire dans le monde que l'entrée du péché? Ce péché qui a tout détruit, tout dévasté dans la relation entre Dieu et l'homme. Et pourtant, le péché va être le prétexte que Dieu va utiliser en quelque sorte pour manifester toute la richesse de sa grâce, de sa bonté, de son amour. Le diable pensait faire du mal, mais Dieu a utilisé ce mal pour démontrer le bien d'une façon extraordinaire, absolue. Et c'est ce qui va se passer aussi avec cet aveugle. Alors l'histoire de l'aveugle, elle n'est pas simplement une histoire ancienne, mais elle est toujours actuelle. Et j'aimerais l'illustrer par l'histoire d'une vie que vous connaissez peut-être. Je vais vous montrer ce portrait. Qui connaît cet homme? Je ne sais pas si vous voyez.
Ah oui,
voilà, c'est Nick. Nick Vujicic, je vous enverrai son témoignage après-midi. Nick, il est né, jeune Australien, sans bras ni jambes. Et il aurait bien préféré, certainement, avoir une autre vie. Toute sa jeunesse, il a lutté avec cela, au point qu'il a cherché même à se suicider à l'âge de 8 ans, parce qu'il ne voyait pas d'issue à sa vie, à son avenir, il ne voyait pas d'avenir pour lui. Jusqu'au jour où le Seigneur l'a arrêté, lui a parlé à travers le récit de l'aveugle-né. Et je vais vous lire son témoignage, il y a un évangile qui est sorti, l'évangile de Jean, avec le témoignage de Nick. Et le témoignage de Nick se trouve au chapitre 9 qu'on lit ce matin. Il dit « À l'âge de 15 ans, j'ai entendu l'histoire de l'aveugle de l'évangile de Jean. Il était aveugle depuis sa naissance, et quand les disciples de Jésus l'ont vu, ils ont demandé à leur maître « Qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Je me suis posé la même question de très nombreuses fois. Est-ce que ce sont mes parents qui ont fait quelque chose de mal? Ai-je moi-même fait quelque chose de mal? Pourquoi suis-je né sans bras ni jambes? Jésus a répondu, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » Lorsque l'aveugle a entendu cette explication, cela a radicalement transformé sa vie. Il a pu comprendre les possibilités qui s'offraient à lui. Vous pouvez imaginer à quel point cette histoire m'a touché, moi qui étais en pleine adolescence, tellement conscient d'être différent, handicapé ou dépendant des autres. Soudain, j'ai entrevu une nouvelle possibilité. Je n'étais pas un fardeau, je n'étais pas déficient, je n'étais pas puni. J'avais été fait sur mesure afin que les œuvres de Dieu soient révélées en moi. Une vague de bien-être m'a traversé comme jamais auparavant lorsque j'ai lu ce texte. Je m'interrogeais sur les raisons de ma naissance sans membre, mais j'ai compris à ce moment-là que Dieu seul détenait la réponse. Je devais tout simplement accepter cela et croire aux possibilités qu'il me présenterait. Personne ne sait pourquoi je suis né avec mon handicap, tout comme personne ne savait pourquoi cet homme était né aveugle. Jésus a dit que c'était le cas, afin que les œuvres de Dieu soient révélées. Ces paroles m'ont procuré un sentiment de force et une grande joie. Pour la première fois, je me suis rendu compte que mon incapacité de comprendre pourquoi je n'avais pas de membre ne signifiait pas que le Créateur m'avait abandonné. L'aveugle a été guéri dans un but précis. Je n'avais pas été guéri, mais mon utilité serait révélée en temps et en heure. À 15 ans, donc, il a vraiment vécu cette délivrance intérieure qui fait qu'il a commencé à se poser la question « Comment est-ce que Dieu peut m'utiliser ?» À 17 ans, il a fondé une organisation qui s'appelle « La vie sans membres ». Et depuis, Nick s'est rendu sur tous les continents. On estime qu'il a parlé à plus de 600 millions de personnes dans le monde, dans 12 pays sur 4 continents au moins. Il est aujourd'hui marié et père de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Alors je vous cite 2 citations de Nick. Il a dit « Si Dieu ne fait pas un miracle pour moi, il peut faire que je sois un miracle pour d'autres. » Et c'est vrai, c'est ce qu'il a fait. Et avec un certain humour, il a dit ici aussi « Dieu utilise ma vie comme un exemple de la façon dont il peut utiliser un homme sans bras ni jambes pour être ses mains et ses pieds. » C'est extraordinaire, je trouve. Nick n'est pas né parce que ses parents, n'est pas né comme il est né parce que ses parents ont péché, mais pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je crois... Nous devons vraiment prendre cette dimension de la façon avec laquelle Dieu agit. Parfois, nous pensons que Dieu peut se manifester surtout par la guérison, mais Dieu peut aussi se manifester en laissant quelqu'un, dans sa faiblesse, être un instrument au travers de qui la gloire de Dieu peut se révéler. On va voir comment Jésus a procédé maintenant avec l'aveugle-né. Une chose qu'il faut dire, c'est que Jésus n'agit pas de façon standardisée et automatique. Il agit à chaque fois de façon différente. Il y a plusieurs passages dans les évangiles où Jésus guérit des aveugles. On peut penser à Bartimée, par exemple. Vous connaissez peut-être dans l'évangile de Marc. Il est dit que Jésus a guéri Bartimée, il l'a appelé, il a touché ses yeux. Mais la situation de Bartimée n'est pas la même que l'aveugle-né. Lorsque Bartimée s'adresse à Jésus, il lui dit « Fais que je retrouve la vue ». Bartimée voyait, mais il avait perdu la vue. Ici, nous sommes face à un aveugle-né, et Jésus va utiliser un moyen tout à fait particulier, mais plein de signification pour l'aveugle-né. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyer ». C'est intéressant la façon dont Jésus guérit ici l'aveugle-né. Quand on lit la Genèse, au début, on se rend compte que l'homme a été fait avec de la terre. Il est dit « Dieu prit de la terre et façonna l'être humain ». Ici, Jésus prend aussi de la terre pour guérir l'aveugle-né. D'ailleurs, dans certaines traductions, la traduction Chouraki, par exemple, lorsqu'il est parlé d'Adam, Chouraki traduit toujours « Il fit Adam le glébeux, l'homme tiré de la terre hein. ». Nous sommes tous tirés de la terre. En utilisant la terre pour guérir ce qui n'a pas bien fonctionné chez l'homme, aveugle depuis sa naissance, c'est comme si Jésus faisait non pas un acte de guérison, mais un acte de recréation, de création. Il prend la terre et met la terre sur la partie qui ne marche pas, pour la recréer en quelque sorte. Et c'est pour cela que l'aveugle-né dira « Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui puisse guérir un aveugle-né. » C'est comme si Dieu devait le recréer dans ce problème qui est là depuis l'origine. Pourquoi est-ce que Jésus ensuite l'envoie au bassin de Siloé ? Ben, je crois que Jésus poursuivait deux buts. D'abord, il voulait guérir cet homme, recréer ce qui n'a pas été bien fait, mais il voulait aussi opérer en lui un autre travail, ouvrir ses yeux intérieurs sur qui est Jésus, parce que c'était ça son but. Il le conduit à prendre un chemin de foi, on pourrait dire. Il ne le guérit pas tout de suite, il lui demande de faire confiance. Va jusqu'au bassin de Siloé, « Lave-toi et là-bas tu seras guéri. » L'homme est appelé à croire à la parole de Jésus. Jésus ne veut pas simplement lui donner la vue, il veut aussi l'amener à découvrir qui il est. Et c'est pour ça qu'il le pousse, qu'il l'oblige à faire un chemin vers lui, un chemin de foi. Jésus l'a dit, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et Jésus ne veut pas simplement donner à cet homme la lumière physique, mais il veut l'amener à comprendre qui il est lui. On n'a pas lu la suite du chapitre, mais on va un peu regarder certains versets. Et on va voir que dans le témoignage que rend l'aveugle-né, il y a vraiment une progression. De plus en plus, il comprend qui est Jésus. Dans Jean 9, verset 11, quand les Juifs lui demandent « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» au verset 10, il répond « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » Voilà, l'homme qu'on appelle Jésus. Il commence par là. Au verset 17, ensuite, il continue à être interrogé, le pauvre. C'est terrible parce qu'on n'arrive pas à accepter le miracle. C'est pas possible. Certainement, il y a une coquille, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ils appellent les parents pour savoir. Verset 17, ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Ah, c'est pas qu'un homme, c'est un homme de Dieu, en quelque sorte. Verset 24, « Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme, le pauvre, qui avait été aveugle, et lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'était que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Et au verset 25 à 33, on va lire. « Ils lui dirent de nouveau, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. » Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Voilà qu'il les enseigne, qu'il les reprend. Soyez logiques, cohérents. Si cet homme était pécheur, comment Dieu pourrait-il accréditer ce qu'il fait, soutenir ses actes? Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, tu l'as vu avec tes yeux maintenant. Et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. On voit Jésus, en tout cas, l'expérience de cet homme avec Jésus qui progresse de plus en plus. Non seulement il a les yeux ouverts, mais il comprend de mieux en mieux qui est celui qui lui a ouvert les yeux. Et à la fin, il confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Confesser que Jésus est le Fils de Dieu, c'est le cœur de la foi chrétienne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évangile de Jean a été écrit pour cela, pour que les hommes, au travers du témoignage des œuvres de Jésus, comprennent qu'il est le Fils de Dieu. Il y a un petit indice aussi qui est dans ce chapitre. On peut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus ne fait rien au hasard. Pourquoi est-ce qu'il l'a envoyé au bassin de Siloé? Eh bien, l'explication nous est donnée au verset 7. Il lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyer ».« Envoyer ». En fait, Jésus voulait lui montrer que celui qui lui a guéri, celui qui le guérit, c'est l'envoyé. L'envoyé dans la Bible, c'est le Christ, c'est le Messie, l'envoyé de Dieu. Tout est fait ici pour accréditer et manifester vraiment que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous de cette histoire ? La première chose, c'est que, et c'est évident, on le sait, on a besoin de l'œuvre, de l'intervention de Jésus dans nos vies pour apprendre à voir, pour connaître la lumière. Sans Jésus, on peut être des gens cultivés, instruits sur beaucoup de choses, même sur la Bible. Mais à un certain moment, il faut cette intervention pour que nos yeux s'ouvrent. La deuxième chose, c'est que Jésus veut de plus en plus se découvrir à nous et nous apprendre qui il est. Plus nous le voyons, plus nous le connaissons, plus nous voyons clair dans la vie, plus nous voyons les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles doivent être. Nous avons besoin de la lumière de Jésus constamment pour bien juger de chaque chose dans la vie. Que faut-il pour que, pour que Jésus ouvre nos yeux? Eh bien, il faut qu'on reconnaisse qu'on est aveugle d'abord, que nous sommes incapables de rien connaître sans lui. Et puis sinon, la Bible dit, dans Jean 8, verset 12, elle nous donne ici une clé. « Je suis la lumière du monde. » Jésus leur parla de nouveau. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » La clé de la vie chrétienne pour grandir dans la connaissance de Jésus dans la lumière, c'est de le suivre, de marcher avec lui, de pratiquer ses commandements, d'écouter sa parole, d'obéir à ce qu'il demande. Plus nous le suivons, plus nous sommes dans la lumière et moins les ténèbres n'ont d'emprise sur nous. Alors que Dieu nous donne la grâce de pouvoir le suivre, de le connaître de mieux en mieux, pour que nous puissions communiquer et d'autres aussi être des témoins de la gloire de Dieu par Jésus. Amen.